Le jeune homme riche s'en est retourné chez lui tout triste, nous dit l'Évangile. Il serait donc bon de nous attarder à présent quelque peu sur la nature de cette tristesse, afin de ne pas nous laisser abuser par les larmes de notre ami et rater dès lors totalement l'un des enseignements importants dispensés par Jésus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant, j'aimerais que nous prenions du temps pour tenter de résumer ce que notre Seigneur nous a déjà dit concernant l'accès au royaume de Dieu, au travers de sa rencontre avec le pharisien Nicodème et le jeune homme riche, chef de la synagogue. Et puis, je prendrai aussi au passage quelques autres textes dans les Épîtres pour compléter notre compréhension des choses. Première chose à rappeler, et c'est fondamental, c'est que la conversion chrétienne, ce n'est pas le cas dans toutes les religions, la conversion chrétienne est l'œuvre de Dieu. Dire que la conversion est l'œuvre de Dieu, c'est dire que l'âme de l'homme est passive et se trouve dans un état de mort spirituelle jusqu'au moment où il reçoit de Dieu le don de la grâce régénératrice. Il est d'ailleurs à noter la pertinence et la force, mais aussi la simplicité des images, des métaphores utilisées dans le Nouveau Testament pour nous inciter justement à réfléchir à la nature de la conversion. Paul, par exemple, l'assimile à une nouvelle création. Il dit ça, entre autres, en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, rappelez-vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et quand Paul emploie cette image, il fait bien entendu référence à la création, détaillée dans la Genèse, où Dieu crée toute chose à partir du néant, à partir de quelque chose qui n'existe pas. On va prendre un des textes d'ailleurs où Paul fait cette référence. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Paul dit c'est Dieu qui accomplit tout cela et il fait référence encore une fois à la création dans ce passage. De cette lumière qui apparaît comme au premier jour de la création, ici qui apparaît dans l'âme de l'homme converti, régénéré par le Saint-Esprit. Toujours Paul nous dit que la conversion est aussi une résurrection. Éphésiens 2, 5, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Autrement dit, l'âme passe de la mort à la vie, tout comme le Christ ressuscite d'entre les morts, passe de la mort à la vie. Mais le modèle de pensée prédominant dans le Nouveau Testament, et vous le savez puisqu'on en a parlé dans les messages précédents, le modèle de pensée prédominant, je dis dans le Nouveau Testament mais aussi dans l'Ancien, c'est sans nul doute celui de la nouvelle naissance. Alors, vous verrez, si vous allez sur le site cette semaine, je suis certain que vous allez aller voir les notes, il y a des références bibliques partout. Encore une fois, pour vous montrer que mon enseignement s'assoit, peu importe, qu'il est placé sur la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à faire ce petit cheminement à travers l'Écriture cette semaine, si vous en avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous le prenez. Sachant que le temps ne se donne jamais, il se prend toujours. Il y a une référence, j'ai pris celle forcément lors d'un message de l'Évangile de Jean, chapitre 3, la rencontre de Jésus avec Nicodème, mais il y a d'autres passages, vous avez, où les autres apôtres ont très bien compris l'enseignement de leur Seigneur. Ici, 1 Pierre 1:23, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, donc qui peut se détériorer ou se détruire, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Il y aura un souci ? C'est un peu vite, d'accord. Je vais ralentir. Le Nouveau Testament, non, je plaisante, hein, l'exigence en plus. Hein. Le Nouveau Testament enseigne donc aussi la collaboration de deux agents, et je manque un peu de respect à Dieu en parlant d'agents, mais je n'ai pas trouvé d'autres termes pour le dire. Il y a donc collaboration de deux agents dans la nouvelle naissance, dans la naissance d'en haut, dans la naissance de l'Esprit. Ça ne vous étonnera pas, on en a donc déjà parlé. Précédemment, c'est l'Esprit Saint et la parole de Dieu. La conversion est donc l'œuvre de Dieu et en particulier l'œuvre du Saint-Esprit. Rappelez-vous, dans la conversation entre Jésus et Nicodème que nous avons étudiée, le Seigneur qualifie l'homme né de nouveau de « né de l'Esprit » ou « né d'en haut ». Lors de cette naissance d'en haut, Dieu intervient directement dans l'âme et crée en elle de nouvelles dispositions, des convictions, des desseins et des désirs nouveaux. Il y a donc un changement dans tout cela. Notre Seigneur Jésus souligne également que cette œuvre de l'Esprit-Saint s'opère selon le bon vouloir de Dieu. Rappelez-vous encore une fois, c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Tu entends le vent, mais tu ne sais pas où il souffle ni où il va. Il en va de même de l'Esprit de Dieu. Pour le dire autrement, c'est l'Esprit-Saint qui œuvre, et c'est aussi Dieu qui détermine et qui choisit à qui il se révèle. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, cette œuvre de l'Esprit-Saint lors de la conversion est encore un peu mystérieuse. On peut essayer de l'investiguer, je pense qu'il faut le faire avec les textes bibliques. On peut tenter de l'appréhender avec des raisonnements humains, c'est les seuls qui sont à disposition en ce qui nous concerne. Mais un peu d'humilité tout de même, on ne sera jamais vraiment capable de sonder totalement l'œuvre que l'Esprit-Saint opère dans l'âme d'un homme ou d'une femme lors de la conversion. Et quelque part, tout bien réfléchi, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Parce qu'on sera encore capable, si on avait tous les rouages de ce magnifique mouvement de l'esprit en nous, nous serions encore capables de l'édulcorer, de le travestir, ou pire encore, de le détériorer. Excusez-moi, je vais tousser. La conversion aussi, deuxième agent, s'opère à l'aide de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, sans que l'homme soit exposé à la parole de Dieu, la nouvelle naissance est totalement impossible. La vérité de Dieu révélée est indispensable à la conversion. Donc, toutes les conversions de type mystique, oui, foudroyées sur place, sans avoir aucun rapport de quelque ordre que ce soit avec l'Écriture, et somme toute, Bible en main, problématique. Alors, quelle est cette parole? La Bible, c'est 66 livres. Hein. Donc, quelle est fondamentalement cette parole que l'homme a besoin d'entendre pour que la conversion ait lieu? Bien d'abord, que cette parole, il faut le redire à l'homme, est une bonne nouvelle. Vivons ici-bas, je pense que les journées au quotidien ne sont pas toujours faites et constituées de bonnes nouvelles. La parole de Dieu envers l'homme pécheur et perdu est une bonne nouvelle, selon laquelle Dieu a pourvu un sacrifice pour son péché en offrant son propre Fils pour réconcilier les pécheurs avec lui-même. L'importance de la parole de Dieu suppose aussi celle de l'esprit de l'homme. Ça, je pense qu'on le néglige trop souvent, on ne réfléchit pas assez à cela, parce qu'on sait que c'est l'Esprit Saint qui fait tout, on a l'impression que l'homme il est une sorte de plante verte, qui est totalement inopérant dans l'acte de conversion. C'est oublier donc un peu vite que l'homme a un esprit, une capacité d'intelligence, une capacité de raisonnement. Ce qui signifie que la parole de Dieu n'agit pas dans l'âme par magie, mais selon la mesure qui est donnée à l'âme de la comprendre et de la croire. Donc dans cette dynamique-là, l'homme est actif. J'ai pris un texte où Paul exprime cela. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Donc comment feront-ils appel à Dieu pour les sauver s'ils n'y croient pas? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Autrement dit, si c'était magique, ils n'auraient pas besoin d'entendre. Il faudrait que quelque chose se passe, un événement quelconque, produit par Dieu. Si c'est la parole intelligible qui est nécessaire, c'est que forcément ça implique l'intelligence et la réceptivité de l'homme. Avant de détailler ça peut-être un peu plus précisément, je rappelle un point important aussi, que j'ai mis un peu plic-ploc dans mes notes, parce qu'il m'est venu comme ça, j'ai dit « Oh, je viens de noter ». Il n'y a bien entendu aucune tension entre la parole de Dieu et l'esprit. Ça paraît évident, hein, mais enfin bon, je préférais le préciser. Ils opèrent ensemble à la nouvelle naissance, en amenant des hommes et des femmes à la repentance et à la foi qui sauve en Christ. Sans l'Esprit Saint, la parole de Dieu reste sans effet. Pourquoi? Mais parce qu'on la méprise, on la sous-estime, ou au mieux, on en fait un objet de réflexion philosophique ou culturelle. Mais dans tous les cas, on la vide de sa substance divine. l'homme ne peut pas recevoir seul la parole de Dieu. Il a besoin de l'illumination du Saint-Esprit. Et si cette parole n'est qu'une parole, on ne lui donne dès lors pas plus d'autorité qu'à d'autres paroles d'hommes. Pour beaucoup de gens, vous diront, moi j'ai lu la Bible. Ouais, c'est bien, mais la Bible a été écrite par des hommes. Oui. Donc ça, c'est quelqu'un qui a lu la Bible, qui était en contact avec la parole de Dieu, mais qui n'a pas eu l'insufflation, si on dit si ça se dit, en tout cas l'intervention de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit de Dieu, l'autre versant, les hommes regardent, mais ne voient pas. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. De la même manière, l'œuvre de l'Esprit Saint sans la parole de Dieu est tout aussi inefficace. Il n'y a dans ce cas aucun message de la part de Dieu à comprendre et à croire. Si personne ne parle, dit Paul, il ne risque pas de croire. L'Esprit Saint seul, sans la parole. Donc, je vais donner un exemple pratique. Si vous rencontrez un ami qui vous est très cher, on commence par ceux-là souvent, on a envie qu'ils connaissent le Seigneur aussi. Si vous débarquez et vous priez Dieu en disant, voilà, intervient un Seigneur, et qu'au moment de la soirée, vous ne dites pas un mot de la parole de Dieu, l'Esprit Saint il peut être rempli dans toute la place, il ne se passera rien. C'est pour ça que le Seigneur a décidé d'avoir besoin de nous. C'est beau, hein? C'est son choix. Jean 16, un texte important sur ce sujet. Jean 16, 13, 16, c'est un enseignement de Jésus, bien sûr. Quand le défenseur sera venu, donc l'Esprit Saint, le paraclète en grec, l'Esprit de la vérité, la parole de Dieu est la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Donc comme Jésus en témoigne, l'Esprit a pour mission d'apporter et de révéler l'Évangile aux âmes et aux consciences jusqu'alors, prisonnières des ténèbres de l'aveuglement. Car mes amis, le problème de l'homme, de l'âme humaine, qui ne connaît pas Dieu, c'est qu'elle se croit sage, elle se croit intelligente, mais elle est d'une sagesse qui conduit à la mort et au jugement de Dieu. C'est ce que Paul dit dans sa lettre à l'Église de Rome au chapitre 1. Et c'est ici que la notion d'appel de Dieu, omniprésente dans la Bible, est importante. Ce texte met en fait en lumière l'action commune de la parole et de l'Esprit dans le miracle de la conversion. En effet, les chrétiens sont appelés par grâce. Vous rappelez de ça, hein? Ephésiens 2 entre autres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, etc. Or, quand on y réfléchit, appeler quelqu'un, ça suppose d'employer le langage, de s'adresser directement et personnellement à la personne. Si vous appelez quelqu'un dans la rue, par exemple, vous allez devoir utiliser le français, le langage, et vous allez devoir appeler la personne par son nom. Vous faites « Hé !» Il y a peut-être 20 personnes qui vont se retourner, mais personne personnellement ne va le faire. Le langage est donc indispensable dans la notion d'appel. De plus, dans le Nouveau Testament, cet appel est efficace car il suscite immanquablement la foi et la repentance en réponse. Donc cet appel est à distinguer de la prédication de l'Évangile quand elle s'adresse aléatoirement à un auditoire, car il produit toujours la réponse positive de la personne appelée. Ça signifie que dans un auditoire, par exemple, quand la parole de Dieu est prêchée, la parole de la croix est prêchée, il y a des gens dans cet auditoire qui entendront cet appel individuellement, personnellement, et d'autres qui ne l'entendront pas. C'est en substance ce que Jésus enseigne au travers de la parabole du semeur. Hein, le semeur sur le matin pour semer, il sème dans tous les terrains, et puis le ratio à la fin, vous savez, c'est 25% de réponses positives, de fruits, et 75% de semences qui ne poussent pas, ou qui en tout cas au moment de la pousse sont éradiquées d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de comprendre, c'est donc que l'acte de la conversion n'est jamais collectif, il est toujours individuel. Dieu appelle personnellement le pécheur à la repentance. Rappelez-vous qu'en Jean 10, si ma mémoire est bonne, Jésus dit en parlant, en disant qu'il est la porte de la bergerie, il dit « Mes brebis entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix, je paraphrase un peu de mémoire, et je les connais par leur nom, je connais leur nom. » Pour ceux qui ont été aux abeillères, les brebis ont un nom, même si à la fin, d'un certain temps, elles passent à la boucherie quand même. Pas ici, hein. C'est aux abeillères, ça. Mais elles ont toutes un nom. Moi, je serais éleveur de moutons, ce serait impossible. Vous donnez un nom à votre brebis, et puis à un moment, elle vous la conduit à l'abattoir. Moi, je ne sais pas comment ils font, hein, les éleveurs, franchement. Je ferme la parenthèse, ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt. Élément important. S'il est vrai qu'au moment de la conversion, l'âme est passive, c'est ce que je vous ai dit, morte spirituellement, elle ne le reste pas. Et ça, je pense que c'est fondamental, il faut bien comprendre cela. L'œuvre de Dieu dans une âme n'a pas pour effet de contourner ou de supplanter ses diverses compétences, mais bien de les éveiller à la vie et, une fois que c'est fait, l'éveil à la vie est fait, de les y maintenir. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit Saint en nous. Ce que je veux dire par là, parce que c'est peut-être pas très clair, c'est que si le Saint-Esprit donne bel et bien la repentance et la foi, que sans lui on ne peut pas croire, ça ne signifie pas pour autant que c'est lui qui se repent ou qui croit à notre place. Comme il fait tout, le glissement est vite fait. Hein. Qu'on serait passif là aussi. Ah ben il croit à ma place. Et voilà. Non, non, non. La foi et la repentance sont des dispositions du pécheur, de la personne qui est exposée à l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Des dispositions opérées en lui par l'action de l'Esprit-Saint. Lorsqu'il donne cette disposition, l'Esprit-Saint agit en parfaite harmonie avec la personne concernée. Pour ça que c'est un salut à la pièce. Hein. Il respecte ce que nous sommes. C'est parce que nous sommes une dizaine ici, nous sommes tous différents. Ben si. Il faut que j'explique. Donc l'Esprit-Saint agit en parfaite harmonie avec la personne concernée, sans, et c'est important, sans la forcer à agir contre sa volonté ou sa raison. Il rencontrait la personne prête à accomplir ses actions, donc la repentance, etc., et apte à en voir la pertinence. Autrement dit, dans la conversion, votre intellect, votre raison n'est pas court-circuitée. Hein. Donc cette implantation de la vie spirituelle, et je crois que le terme implantation est important, autrement dit, le nouveau cœur que Dieu nous donne, c'est pour ça que le terme d'implantation paraît sympa, et que le Nouveau Testament appelle la régénération, conduit donc, et c'est la bonne nouvelle, inévitablement le pécheur à la repentance et à la foi salvatrice. Relisez ce très beau passage d'Ézéchiel 36, par exemple, les 26 premiers chapitres, les 26 premiers versets du chapitre, ce texte est absolument incroyable. Comme nous venons de le voir, le Nouveau Testament atteste que la parole et l'Esprit Saint opèrent ensemble la conversion. Il faut également préciser que la parole n'est pas une sorte de formule magique que le candidat à la conversion devrait entendre, ni un sort qu'on devrait lui jeter ou une incantation. J'espère que vous avez bien compris la différence. Elle est la vérité de Dieu. Et lorsqu'ils la reçoivent, et à mesure qu'ils la comprennent, le Saint-Esprit dispose les hommes à y croire et à placer leur confiance dans le Sauveur que Dieu leur a donné. C'est un processus. Hein. La toute-puissance de ce dernier à les délivrer du péché repose au cœur de cette vérité. Autrement dit, que Dieu a la puissance nécessaire pour convertir. Là encore, au moment de la conversion, Dieu travaille en l'homme en parfaite adéquation avec sa personnalité. En effet, quoi de plus naturel pour nous que de lire, enfin, peut-être pas pour tous, mais bon, ou d'entendre ce que les gens qui nous entourent ont à dire, de les comprendre, le langage, la communication, les relations. Notre vie toute entière, qu'elle soit familiale, peut-être pas pour tout le monde, mais soit amicale ou communautaire, repose sur cette compréhension et il en va de même pour la conversion. Donc, pour qu'il y ait relation entre vous, il faut qu'il y ait communication. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. C'est aussi simple que ça. Dans l'acte de conversion, c'est les mêmes éléments qui sont à l'œuvre. Autrement dit, lorsque nous lisons ou entendons la parole de Dieu, qu'elle soit lue individuellement, dans la Bible, seule, dans un coin, prêchée ou débattue, le Saint-Esprit nous donne de la comprendre et de lui faire confiance. Et cette compréhension n'a rien de mystique. Les écrits bibliques n'ont pas un sens caché qui ne serait accessible qu'à une élite spirituelle ou à un nombre d'initiés limité. L'Esprit Saint utilise simplement le sens naturel des Écritures. Autrement dit, quelqu'un qui a un niveau éducatif très bas ou que quelqu'un qui a un... ça n'entre pas en ligne de compte. Toutes les catégories de personnes, indépendamment de leur capacité intellectuelle, sont tout à fait capables d'entendre, de comprendre et d'être soumis à l'action de l'Esprit Saint et de se convertir. Et en réfléchissant à ça, c'est l'image d'un puzzle, même si je n'en ai jamais fait dans ma vie, parce que c'est le genre de truc qui m'énerve profondément. C'est quand même cette image-là qui m'est venue à l'esprit. Sous la direction du Saint-Esprit, les pièces du puzzle de la révélation divine s'assemblent. Vous voyez un puzzle, comment ça se monte. Hein. Si vous ne voyez pas l'image sur la boîte, vous montez votre truc, vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes en train de monter. C'est un peu ça. Donc tout ce puzzle commence à se monter grâce à l'Esprit Saint et à la parole de Dieu. Et finalement, tout cela s'assemble dans le but d'apporter un format cohérent à tout ça. Paul emploie une autre image qui est celle que j'ai déjà employée, je vous ai expliqué, celle dans la première aux Corinthiens. Je pense que c'est Corinthiens. Il faudra peut-être que je vérifie. Soit. Où il dit que le Christ. Non, c'est Galates, je pense. Où il dit que le Christ crucifié nous a été peint. C'est un peu la même chose. Vous êtes derrière le peintre, la toile est blanche, il commence à peindre, vous ne savez absolument pas ce qu'il peint. Il met le fond de couleur, vous ne savez pas quel est le modèle, le motif qu'il va peindre. Vous n'en savez rien. Alors que vous êtes derrière, dans son dos, en train d'observer. Et au moment où la peinture est finie, il se retire et là, vous voyez le Christ en croix. L'image est complète. Alors l'œuvre que je viens de décrire, bien maladroitement, sans doute, est donc celle du Saint-Esprit. Mais un individu qui est au bénéfice de cette œuvre ne la reconnaît pas toujours comme telle. Autrement dit, dans tout le processus qui mène à la conversion, et même un peu après sans doute, vous n'êtes pas conscient que l'Esprit Saint est en train de travailler. Laissez-moi vous donner une illustration de cette réalité. Si votre nerf optique, relative aux yeux, hein, nerf optique celle-là, hein, nulle part ailleurs. Hein. Donc si votre nerf optique ne fonctionnait pas correctement, vous ne pourriez pas voir. C'est aussi simple que ça. Mais voir n'exige pas pour autant que nous ayons conscience de ce fait. On peut tout ignorer du fonctionnement de l'œil humain, mais tout de même avoir une excellente vision. De la même manière, je peux ne pas avoir conscience que le Saint-Esprit œuvre en moi, bien qu'il le fasse. Pourquoi ? Parce que son œuvre se manifeste par ses effets. De nouveau Jésus à Nicodème, ce même passage, tu vois les effets du vent, mais tu ne le vois pas. Quand il y a du vent, vous voyez les arbres, vous êtes dans votre bureau. Moi, dans mon bureau, j'ai une vue sur un arbre très loin, derrière des maisons. Ben moi, la fenêtre est fermée, il n'y a pas de vent dans mon bureau. Mais je sais qu'il y a du vent dehors parce que je vois les branches de l'arbre. Mais je ne vois pas le vent, je ne vois que ses effets. Alors, quels sont les effets, en fait, du travail de l'Esprit Saint dans un homme ou une femme sur le chemin de la conversion? Ben, le désir de connaître la parole de Dieu, la conviction de péché, un stade, la foi en Christ et la repentance devant Dieu. Tous ces effets peuvent exister chez une personne sans que celle-ci sache qu'il s'agisse de l'œuvre du Saint-Esprit en elle. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas souvenir que dans l'évangile que l'on m'a annoncé, on m'ait parlé de la méthodologie que Dieu utilisait pour convertir les hommes, entre autres le Saint-Esprit. La parole de Dieu et l'Esprit ont fait leur travail et c'est après ma conversion, en étudiant l'Écriture, et des contacts avec d'autres chrétiens plus matures que moi à l'époque, que je me suis rendu compte que l'Esprit Saint avait fait tout ce boulot. Il l'avait fait, mais j'en étais totalement inconscient. Lorsqu'un homme se convertit, Dieu n'œuvre donc pas de manière étrangère à son esprit. La conversion ne requiert donc pas une paralysie ou un suicide intellectuel. D'ailleurs, le premier d'entre vous qui me dit que parce que je suis chrétien et converti, je me suis suicidé intellectuellement. Donc la conversion n'est pas une simple manipulation psychologique, ça existe, hein, mais ce n'est pas la conversion. Certains milieux, c'est ce qu'on fait, hein, mais ça, ce n'est pas la conversion. Ni un lavage de cerveau ou un tour de passe-passe. Pas plus qu'elle n'est réservée à une culture en particulier ou une façon de penser particulière. Elle est un phénomène qui appartient aussi bien au XXIe siècle qu'au Xe, qu'au IIIe, qu'au IVe ou qu'au Ier. Et ce phénomène se produit aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique ou en Asie ou même dans des pays musulmans terriblement fermés à l'Évangile. Alors certains se demanderont peut-être comment c'est possible. Ben, la réponse est toute bête, j'ai envie de dire, et toute claire. Cette réalité est possible dans n'importe quel contexte parce que la parole de Dieu est la vérité et que l'Esprit Saint est l'esprit de vérité. Et que c'est cette vérité-là que l'homme a besoin d'entendre et qui répond à tous ses questionnements et à tous ses besoins. Donc une petite précision concernant la parole, c'est que, et on l'a vu la semaine passée dans la, entre guillemets, la méthodologie de Jésus avec le jeune homme riche, quand il lui annonce la loi, il lui parle des commandements, il lui parle de la loi de Dieu. Dans cette parole de Dieu que l'homme a besoin d'entendre pour se convertir, avec l'aide de l'Esprit, dans cette parole, il y a l'Évangile, la bonne nouvelle, mais aussi la loi. Il y a aussi la référence aux 10 commandements, parce qu'elle est indispensable. Sans cette référence à la loi de Dieu, aux exigences de Dieu, l'homme ne pourrait pas découvrir son statut, son véritable état de perdition. Tous les hommes, intrinsèquement, sans l'intervention de Dieu, vont se dire qu'ils sont pas mal quand même, parce qu'ils vont se comparer aux autres. Alors si vous prenez du trou comme comparaison, ben, c'est ce que les hommes font. C'est pour ça que plein d'hommes et de femmes aujourd'hui disent « Mais s'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il attend pour punir tous les méchants, etc. » sans comprendre qu'ils font partie des méchants aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il utilise la vérité divine révélée pour amener l'homme à la conversion, pose un diagnostic et prescrit le remède. Alors, pour le diagnostic, il n'y a que la loi. Sans la loi, vous ne pouvez pas poser le diagnostic. Mais pour le remède, il faut l'Évangile. Dieu vous aime, il en est son Fils, qui est mort pour vos péchés, à votre place. Comprenez ? Diagnostic, remède, mais les deux sont indispensables. Et ce diagnostic est que donc la relation entre Dieu et l'homme a été rompue, et cette rupture est d'ordre moral et spirituel. Spirituel dans sa nature et moral dans ses effets. Ces effets sont d'ailleurs, quant à eux, visibles et largement répandus dans toutes les sociétés et cultures humaines, même si ces sociétés ne les identifient pas comme telles. Je m'explique. Toutes les sociétés, sans exception, ont connu et connaîtront la violence, la haine, la méchanceté, l'égoïsme, l'orgueil, la débauche et j'en passe. Mais elles ne lieront pas toutes ces réalités au péché, au lien perdu entre Dieu et elles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont de ces réalités une vue sociologique, c'est-à-dire collective, globale, alors que la cause de tout cela est personnelle et à la fois morale et spirituelle. Donc, contrairement à ce que Jean-Jacques Rousseau a pu écrire, ce n'est pas la société qui corrompt l'homme. Mais c'est bien l'homme qui produit la société dans laquelle il vit. Et celle-ci est l'expression du statut individuel de chaque pécheur. Donc, si la société est aussi mauvaise, c'est parce que vous l'êtes. Ben, donc, en tant que chrétien, normalement, vous devez avoir un impact positif dans cette société. Hein. C'est le vin qui fait monter un peu la pâte. Si je fais petite parenthèse, si on vient à l'église, c'est la même chose. Quand des gens disent oh, « il y a des trucs qui ne vont pas dans l'église », parce que c'est toi qui ne va pas. L'église est positivement l'ensemble de toutes nos qualités et de toute l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies et notre soumission à l'Esprit Saint, et dans ses mauvais côtés, tout ce qui en nous n'est pas encore réglé, tout ce qui en nous disjoncte ou ne fonctionne pas. Nos qualités et nos défauts. Aucun d'entre nous ne peut dire cette église ne fonctionne pas, c'est la faute. Non, non, non. Elle ne fonctionne pas, forcément, elle n'est pas parfaite. Mais tu es en partie responsable du fait qu'elle ne fonctionne pas. Tout comme tu es en partie responsable du fait qu'elle fonctionne, hein, sans doute. Comprenez ? L'homme en tant qu'individu de par sa nature de pécheur ne perçoit pas le fait qu'il fait partie du problème et pas de la solution. Il ne comprend pas qu'il fait partie du problème. Les réseaux sociaux, tout le monde dit oui, c'est ceci, c'est ceci, les gouvernements, cela. Ils ne se rendent pas compte que si ça ne fonctionne pas, ils en sont responsables. Pour en prendre conscience, il faut que le Saint-Esprit éclaire cet homme ou cette femme au moyen de la parole de Dieu, de la Bible. C'est donc pour cette raison que lors de la conversion, le Saint-Esprit attire l'attention de la personne par le moyen de la parole sur sa misère et son besoin, sur sa déchéance morale et spirituelle et sur le danger de sa condition. Dieu est en colère contre le péché de l'homme, Romains 2. Tout le chapitre 2 de l'Épître aux Romains est consacré à la colère de Dieu face au péché de l'homme. Non, Dieu n'est pas un gentil papa gâteau avec une grande barbe qui accepte tout et qui est bien compatissant et bien compréhensif. Non. Dieu est en colère. Si ce n'était pas le cas, Jésus ne reviendrait pas pour installer le royaume. Ça continuerait. Tout va bien. Et on meurt, on va au paradis. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, pas Bible en main. Donc, seule la loi de Dieu, les commandements, permettent de prendre la pleine mesure de cette déchéance. Alors, j'ai un peu parlé des conséquences morales, qui sont la conséquence de la déchéance de l'homme. Maintenant, cette déchéance, elle est premièrement, j'ai envie de dire, d'abord spirituelle. Mais pourquoi est-ce qu'on est déchu spirituellement ? Mais parce que, tout simplement, nous avons été faits à l'image de Dieu. Et que dès l'origine, avant le péché, nous avons été créés comme un être à la ressemblance, à l'image de Dieu. Un être spirituel. Pourquoi ? Parce que parfaitement en relation au Dieu créateur. C'est ça que nous avons perdu. C'est ça que l'homme a perdu. Et c'est pour ça que c'est une déchéance aussi spirituelle. Enfin, nous le comprenons maintenant. Que Adam et Ève ont perdu quelque chose. Enfin, je ne sais même pas comment il faut, quel adjectif on pourrait coller là-dessus. Ils ont perdu leur vocation spirituelle, leur état de béatitude et de perfection originelle, et la relation profonde, la connexion intense et intime avec le Dieu créateur. Et ils ont perdu ça, et nous à leur suite. Alors nous n'avons pas de souvenir de ça. Moi, je ne préfère même pas penser la souffrance d'Adam et Ève, après qu'ils se fassent virer du jardin, avec en mémoire en permanence ce qu'ils ont perdu. C'est horrible, ça a dû être abominable. Abominable, quand on y réfléchit. Le seul qui a connu pire, c'est Jésus sur la croix, par l'abandon de Dieu. Parce que la connexion fortement était encore plus profonde, plus intime et plus grande. Je viens d'avaler un truc, là, excusez-moi. J'ai vu une petite bête passer et je pense que je l'ai aspirée. On ne se rend pas compte des risques que l'on prend quand on prêche. Mais merci Seigneur que ce n'était pas une bouche bleue. Tout ça signifie en fait qu'à l'origine, l'homme a été créé pour servir son Créateur dans le cadre d'une relation d'amour tissée de reconnaissance et d'obéissance. C'était ça le plan d'origine. Cette relation brisée de nature spirituelle, profondément. Mais les conséquences visibles sont morales. On ne peut prendre conscience de sa brisure spirituelle que si l'Esprit Saint intervient et si nous sommes exposés à la parole de Dieu et si nous convertissons, là, cet homme-là ou cette femme-là, et nous sommes passés par là, il va prendre conscience de cette rupture spirituelle. Il va se rendre compte qu'il est un être spirituel à la base et que Dieu l'aime. Et que sa vocation, c'est d'être aimé de Dieu et d'aimer Dieu et de le servir. Mais tant qu'il n'en est pas là, l'homme, il se contente des conséquences. Le visible de cette relation spirituelle brisée, c'est les conséquences morales. Et ça, tous les hommes peuvent le voir. Avec moins d'acuité aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, on est dans ce que décrit Ésaïe au chapitre 5 de son livre. Vous appelez le mal bien et le bien mal. On y est. Je pense pour la première fois de l'histoire de l'homme, nous y sommes. Et ça ne va pas s'arranger. Pour prendre la pleine mesure de ce qu'il a perdu, jusqu'à un certain stade, encore une fois, il ne peut pas comprendre qu'il ait perdu quoi que ce soit. Mais l'homme ne doit pas se référer à ses sentiments, à ce qui lui semble raisonnable ou aux normes sociales dominantes. Mais il doit se référer à la loi de Dieu révélée dans le Décalogue, dans la vie et les enseignements du Christ et dans celui des apôtres. Il doit être exposé à ça pour prendre conscience. Et cette loi, la fameuse loi en question, la loi de Moïse, est une loi d'amour. Hein. On ne se rend pas compte quand on lit l'Ancien Testament. On se dit « Oh, quelle horreur !» Je rappelle quand même que, encore une fois, on l'a vu la semaine passée, cette loi régit en fait les relations avec Dieu et les relations avec les autres. Rappelez, hein, Deutéronome 6, 5 à 9, Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton Dieu, toute ta force, toute ta pensée et de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est la loi. Qu'est-ce qu'il y a dans le fondement de cette loi ? Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras les autres. Et cette loi, ça c'est Jésus qui nous l'apprend, ne se limite pas aux actions extérieures observables, mais concerne aussi les motivations et les intentions cachées. À la lumière de tous ces critères, quand on examine tout ça, l'humanité est en état de rébellion contre Dieu parce qu'il ne remplit pas, l'homme ne remplit pas tous ces critères. Dieu s'approche donc de l'homme, muni de l'évangile de son amour et de sa miséricorde. Et cet évangile, c'est celui du sacrifice de son Fils. Ce qui signifie, et c'est important parce que je pense que ça glisse aussi avec beaucoup d'autres choses, ce qui signifie que la croix n'est pas un simple symbole général de l'amour de Dieu pour les hommes, ou un exemple d'amour sacrificiel à imiter, ou un idéal inspirant. Ah, mais tu sais, moi, Jésus, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ah, intéressant. La croix de Christ est le remède divin à la misère de l'homme, la solution de Dieu pour sauver les criminels qui ont transgressé sa loi, son moyen pour restaurer sa relation d'origine avec l'homme. C'est ça la croix. Donc dans notre annonce de l'évangile, on ne peut pas minimiser ça. Si on minimise ça, l'homme ne vient pas à Dieu. Il faut être courageux. Dans ce schéma, Dieu est le Créateur offensé, bafoué dans son amour, et qui pourvoit lui-même le remède en donnant son Fils. C'est lui la victime, et c'est lui qui amène le remède. Si ça, ce n'est pas de l'amour, moi je ne sais pas ce que c'est. Alors pour terminer, j'aimerais vous redonner les éléments indispensables pour qu'il y ait conversion biblique selon la Bible. Comme ça, ça vous permettra un peu d'être projeté dans ce que nous verrons dans les deux ou trois prochains messages, sans être trop perdu. J'ai fait allusion déjà à tout ça, mais de manière plic-ploc à travers différents messages. Je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen de faire une sorte de petite concentration sur le sujet. Premièrement, il faut la conviction de péché. La plupart des gens dans la rue, vous leur parlez de péché, ils disent « Quoi ?» Au mieux, s'ils ont un peu de culture, ils disent « Ah ouais, ce vieux truc en rapport avec la religion, c'est ça que dont tu parles ?» Il y a 50 ans, le péché, ça résonnait encore un petit peu hein, dans la culture ambiante. Aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est et tout le monde s'en fout. Donc même ça, il va falloir redéfinir ce que c'est. Si vous devez être audible, que les autres vous comprennent, il va falloir et leur expliquer ce que c'est le péché. Et qu'ils sont pécheurs. Donc la conviction de péché, ben, c'est le profond regret d'avoir offensé Dieu, de se prendre conscience que je suis pécheur. Et vous ne péchez que contre Dieu. Hein. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de péché. C'est bien ça le problème. S'il n'y a pas de référence à Dieu, il n'y a pas de péché. Il y a le mal. Et le mal qu'on fait aux autres, bien entendu. Mais on ne fait pas de mal à Dieu, puisqu'il n'existe pas. La notion de péché nécessite préalablement l'existence de Dieu. Pour ça que je vous disais, rappelez-vous, par rapport au jeune homme riche dans un des messages, qu'il était le candidat idéal pour l'évangélisation. Il ne fallait même pas lui expliquer que Dieu existait, il savait. Il savait tout, en fait. Là-bas, il avait tout ce qu'il fallait comme candidat pour se convertir. Eh bien non. Donc c'est le profond regret d'avoir offensé Dieu, et seul le Saint-Esprit, nous l'avons vu, peut produire cette conviction. Autrement, je vais dire de manière triviale, les gens s'en foutent. Pour qu'ils se disent « Ah, Dieu existe, et je l'ai blessé, je l'ai offensé, et que ça vous assomme, il faut que l'Esprit-Saint agisse et que la parole de Dieu soit au rendez-vous. » Pourquoi est-ce que l'Esprit-Saint est nécessaire ? Parce que l'Esprit Saint, il est attristé du péché des hommes et de leur blasphème quotidien et continuel contre Dieu. Le plus grand des péchés contre Dieu, c'est de ne pas croire à son existence, hein, et de ne pas lui rendre un culte, le culte dont il est digne. C'est ça le premier péché. Hein. C'est pas « j'ai pas frappé ma femme, j'ai bien divé mes gosses », c'est pas ça. Hein. Le premier truc, même le meilleur gars, qui, il serait tout... « Oui, mais moi j'ai tout... » Non. Tu crois, tu as cru en moi? Tu croyais en moi? Non, ben voilà, t'es foutu. Pas foutu, façon de parler. Tu rentres pas dans la ligne. Le Saint-Esprit est attristé lui-même de cette situation. Et il va donc, au moment de la conversion, répandre cette tristesse dans le cœur de celui qu'il veut gagner. Et cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance pour le salut dont on ne se repent jamais. Autrement dit, qu'on ne regrette jamais. C'est Paul qui dit ça. Cette repentance-là, cette culpabilité-là, on ne la regrette jamais. Parce qu'elle nous sauve. Parce que sans elle, je ne suis pas sauvé. Deuxième élément, merci ma chérie, la repentance. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Alors ça reste vrai dans toute la vie chrétienne tous les jours. Hein. Enfin, peut-être pas tous les jours, parce que de là à pleurer, malheureusement, on pleure pas assez, moi non plus. Hein. Mais quand vous pleurez devant Dieu parce que vous l'avez offensé, parce que vous avez péché, et que vous ressentez cette douleur, c'est ce que les pères de l'Église appellent la contrition, ça c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et dans la conversion, cette tristesse est absolument indispensable, car si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance, où la foi ne vient pas. On ne place pas sa foi. La foi n'est pas là. On en reparlera dans les messages suivants. Rappelez-vous, hein, le premier message de l'Évangile est « Repentez-vous et croyez. » Jean-Baptiste, c'est le message de Jean-Baptiste. Hein, c'est tout ce qu'il a fait. « Repentez-vous parce qu'il arrive, celui qui va mourir pour vos péchés. Il arrive. Repentez-vous. » Je rappelle aussi, on l'a vu, hein, Jésus n'est pas venu sauver des justes. Il n'y en a aucun. Mais des pécheurs qui, dans la tristesse et les larmes, se reconnaissent comme tels. Point suivant. L'abandon du mal. La vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes suivies jusque-là. Il s'agit par un changement de vie de produire, selon les termes, de produire des fruits dignes de la repentance, comme l'annonçait aussi Jean-Baptiste. Ça ne veut pas dire que vous ne pécherez plus une fois que vous serez converti, mais que ça ne vous laissera plus indifférent. Hein. Ce ne sera pas tous les jours les larmes en demandant pardon, mais à un moment, ça va venir. Hein. Si ça ne vient pas, c'est que votre cœur est en train de s'endurcir. Hein. À un moment, ça doit craquer. Hein. Et il faut le demander à Dieu, les larmes, hein, si elles ne viennent pas. Il faut les demander à Dieu. Hein. Ça me fait penser justement à cette très belle prière d'Isaac le Syrien qui dit « Seigneur Jésus, donne-moi les larmes de la repentance, mon cœur est sec. » Il sait qu'il confesse ses péchés, mais pff, c'est mécanique. Quoi. Voilà, je te demande pardon pour ci, je te demande pardon, blablabla, je te demande liste, amen, salut. Ça, c'est pas la repentance, mes amis. Ça, c'est la liste de courses. Donc, l'abandon du mal... C'est le dégoût du péché et une rupture progressive des mauvaises habitudes suivies jusque-là. En tout cas, on identifie ce qui ne va pas dans nos vies, on identifie ce qui ne plaît pas à Dieu et on a le désir profond de changer tout ça. Paul prêchait partout la repentance et la conversion à Dieu avec, comme conséquence, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est comme le vent. Hein. On verra surtout ce que vos vies deviennent. C'est tout ce que les gens verront, ce que vous devenez, les changements opérés. Ils ne verront pas dans votre cœur hein, que le Saint-Esprit s'y trouve. Hein. Point suivant. La complète soumission à Dieu. Alors ça manque, et si ça n'y est pas, c'est problématique aussi. Je pense que 80% des chrétiens sur la planète aujourd'hui n'ont pas ça. Statistique à la louche, hein. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé, mais ne te compte quand même pas sur moi pour être ton disciple et t'obéir. Hein. Mais si ça ne vient pas, si ce désir, encore une fois, on est tous à côté à ce niveau-là aussi, mais si ce désir n'est pas là, de le mettre en premier dans tout, Et c'est, rappelez-vous, je ne vais pas le refaire, rappelez-vous toute la radicalité de ce que Jésus dit par rapport à ceux qui veulent le suivre. Il décourage plus qu'autre chose. Donc, si ça, ça n'y est pas, la repentance envers Dieu n'a d'effet que si elle est suivie de la foi en Jésus-Christ. Car en elle-même, donc la repentance, le fait de regretter, d'être triste, elle ne peut aucunement effacer le péché. Si on s'arrête à la repentance, votre péché n'est pas effacé. Elle dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon que seul Jésus-Christ nous a acquis à la croix. Ça ressort entre autres de plusieurs textes dans la première épître de Jean. Et là, je complète ce que je viens de dire avec le dernier point, qui est la foi. Rappelez que les musulmans ont la foi et les juifs aussi. Hein. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Quel est le contenu de ma foi? La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses propres efforts et s'en remet au Christ seul pour obtenir son salut. C'est la foi que l'on place à la conversion dans l'œuvre accomplie par le Christ. C'est ça la foi qui sauve. Donc c'est pour ça qu'il est impossible d'arriver là si on ne se soumet pas. Je ne vais pas dire que je lui fais confiance pour mon salut, mais le reste de ma vie, je fais ce que je veux et moi je compte sur moi surtout. Et surtout je compte sur moi dans le sens, je ne vais certainement pas sacrifier ma vie pour lui. Ça n'a pas de sens. De là cette parole, ceux qui m'ont dit Seigneur, Seigneur, tous ceux-là ne seront pas dans le royaume de Dieu. Je rappelle quand même que Seigneur, c'est le vocable qu'on emploie le plus dans l'Église. Et Jésus, à un autre endroit de l'Évangile, dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Et réveillons-nous, les gars. Réveillons-nous. Merci. Alors, par souci de précision, et je termine par ça, il faut encore dire que le mot grec « métanoïa », traduit par « repentance » dans la plupart de nos Bibles, signifie « changement de mentalité et d'intention, d'orientation ». Ce qui signifie que la repentance peut décrire une étape de la conversion, comme je l'ai dit, ou l'ensemble du processus, dans lequel tous les autres éléments sont embarqués. Les prochaines semaines, nous examinerons au travers de la tristesse de notre jeune homme riche et d'autres exemples bibliques, les différents cas de figure que nous pouvons rencontrer en relation avec les éléments que nous venons de voir aujourd'hui. Et les cas de figure en question, de manière à annoncer un peu ce que je ferai, je tenterai de faire avec l'aide de Dieu dans les messages prochains, les cas de figure en question peuvent être énoncés comme suit. Merci. Une personne peut être en train d'expérimenter la conviction de péché, mais pas la vraie repentance. Donc, elle ne sera pas convertie. Une personne peut être repentante, mais pour des mauvaises raisons. Donc, elle ne sera pas convertie. Même si elle va s'illusionner de l'être. Et beaucoup d'églises aident à ça. Une personne peut être au bénéfice de la vraie repentance et de la foi en Christ, et cette personne-là est convertie. Mais si on ne peut pas distinguer les modèles, et pourtant les modèles sont dans, c'est ça que on essaye de faire à travers des rencontres de Jésus avec de vraies personnes dans l'Évangile, c'est même pour ça que ces rencontres sont là, à mon sens. Parce que toutes ces rencontres tournent autour du royaume de Dieu et de la conversion et de la vie éternelle. C'est 99% de l'enseignement de Jésus. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que ces êtres sont là, et c'est pour ça qu'ils réagissent d'une certaine manière au message de Jésus, parce que notre Seigneur veut nous dire, lui, il a des éléments, mais il n'est pas converti. Mais nous verrons ça dans les dimanches qui viennent. Que le Seigneur bénisse la parole, sa parole. Amen.